Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux d'être avec vous pour étudier cette épître, cette lettre de l'apôtre Paul. Il a écrit aux Corinthiens, c'est une longue lettre, il y a 16 chapitres, et des hommes bienveillants ont mis des chapitres et des versets pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement, mais au départ, il n'en était pas ainsi. Et voilà, cette lettre, elle est, et on en est rendu au chapitre 2. Et on va lire ensemble ce chapitre. Il faudrait un petit outil. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et ils ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je me suis perdu, je crois. Dieu nous les a révélées. C'est un très beau verset pour s'arrêter ici. Toutes ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Jusqu'ici, donc, la parole de notre Dieu. Et dans cet épître, dans ces premiers chapitres, les chapitres 1 à 4, l'apôtre Paul, il essaye de régler des problèmes dans l'Église. Et il y a un problème de conflit entre les croyants. Et il a appris ça par des personnes qui se sont passées, et il est très affligé par cette situation, et donc il essaye de traiter cette question des conflits. Vous savez comment ça fonctionne, les conflits, hein? Personne ne se dit en rentrant chez lui ce soir là je me fais un petit conflit avec ma femme ou mon mari. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. On rentre et puis le conflit qu'on ne souhaite pas, il éclate. Et on est victime de cette situation, et on ne voulait pas ça, et puis on se retrouve dans cette situation. Et vous savez comment on procède? On est là en train d'argumenter, mais non, c'est moi qui ai raison. Et puis on fait valoir chacun nos positions. Ici, dans l'église de Corinthe, c'était le cas. Chacun faisait valoir ses positions. Et chacun défendait et pensait avoir raison. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Et moi, de Céphas. Et chacun essayait de tirer un peu à son côté. L'idée, c'est de pouvoir dire, mais c'est moi qui ai raison. Et c'est moi qui comprends vraiment la situation. Vous vous souvenez comment s'est passé votre dernier conflit? C'était comme ça. Vous étiez en train de dire, mais laisse-moi t'expliquer. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai bien compris la situation, le problème, et c'est moi qui veux t'apporter la solution. Et on est tout le temps en train de fonctionner comme ça. Et on veut faire valoir notre point de vue. Et le ton monte. Les paroles blessantes sortent. Et puis là, tout le monde est attristé, tout le monde est peiné. Ça génère de l'amertume, de la rancœur. On est triste. Paul ici, il essaye de pousser les Corinthiens à penser différemment. Il essaye de nous amener à penser comme Christ. Il essaye de nous montrer une autre voie que la voie du conflit. Il essaye de nous amener à considérer comment Dieu, lui, a traité le conflit de l'humanité. Il y avait un grand conflit. Et comment lui, il a eu raison dans ce conflit qui nous opposait à lui. Ouais, il est notre créateur. Et nous avons rejeté sa domination sur nos vies. On pense, je me suis fait tout seul. J'ai de compte à rendre à personne. Et puis, du coup, on choisit de vivre sans lui. Et on commet toutes sortes de mauvaises choses. Plus on s'éloigne de lui et plus on commet des fautes. Au lieu de trouver notre bonheur et notre sécurité en Dieu, dans sa volonté, on choisit de vivre indépendamment de lui. Alors éclatent les querelles, les conflits. Qu'est-ce que Dieu devrait faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger les choses. Il va nous juger et nous serons reconnus comme coupables. Et il le fera à moins que nous saisissions la bonne nouvelle. L'évangile. Et c'est cet évangile que l'apôtre Paul, il a prêché à Corinthe, dans cette ville. Et voilà l'évangile. Le Dieu offensé, celui qui a été victime, a envoyé son Fils bien-aimé payer à notre place. Nous pouvons être pardonnés, nous pouvons jouir d'une pleine paix avec Dieu, parce que Christ, le juste, a payé pour nous. Voilà comment Dieu a réglé le grand conflit de ce monde. Celui qui avait raison, il a accepté d'être regardé comme s'il avait tort. Voilà la solution aux rivalités des Corinthiens. Voilà comment nos conflits peuvent trouver une solution. L'évangile, il est appelé, au verset 7, la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Et puis, verset 8, la sagesse que n'ont pas connue les chefs de ce siècle. C'est-à-dire que l'homme naturel ne voit pas la sagesse de l'évangile. Il ne la comprend pas. Il la considère au contraire comme une folie. Elle est au fond tellement étrangère à notre manière naturelle de fonctionner qu'il nous faut une révélation divine. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin. D'abord la révélation divine, on verra ensuite le conflit intérieur que nous connaissons et puis enfin le chemin de la croix. Regardons la révélation de la sagesse divine. Et l'apôtre Paul, il va le faire, il va essayer de révéler cette sagesse en donnant d'abord son propre exemple. Au verset 1, notamment, et au verset 3 et 4. D'abord, nos conflits, ils proviennent de ce que l'on cherche toujours à mettre en avant notre point de vue. On voudrait que notre point de vue triomphe. Alors on use, vous savez comment c'est, fouiller dans votre cœur ou dans votre souvenir de votre dernier conflit. On utilise des techniques un peu manipulatrices. On utilise la séduction. On utilise les grands discours. Et peut-être vous êtes un avocat dans l'âme, quoi. Vous savez comment tourner les arguments, comment les amener pour que ils soient percutants. Ou peut-être vous savez comment émouvoir, toucher, tourner les choses à votre avantage. Peut-être vous êtes capable de démonstrations pertinentes, plus pertinentes les unes que les autres. Mais regardez comment Paul, il est venu. Verset 1, il dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Paul, il s'était rendu à Corinthe après plusieurs épreuves. Il avait été battu et emprisonné à Philippe. Il avait dû fuir Thessalonique et puis Bérée. Il avait été moqué à Athènes. Et ses forces physiques étaient certainement très affaiblies. Était-ce un problème d'être faible? Était-ce vraiment un problème pour lui d'être faible? Non. Il explique ici que c'est dans cette faiblesse que l'Évangile s'est implanté dans la ville de Corinthe. C'est dans cette faiblesse que l'Évangile a pris racine dans les cœurs des Corinthiens. Il montre ainsi que Dieu, dans sa sagesse, a choisi d'utiliser les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il montre que son œuvre s'accomplit le plus efficacement dans la faiblesse. Vous voyez à quel point c'est intéressant. On veut montrer qu'on est fort. On veut montrer dans nos conflits qu'on est plus sage. Et Paul dit ici, « Moi, j'ai été comme le plus faible. » Est-ce un problème que vous puissiez être regardé comme faible? Et puis, il enchaîne au verset 2, en nous présentant le modèle de Christ. La sagesse divine, elle se révèle le plus parfaitement dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Verset 2, il dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il n'a pas dit, « J'ai voulu que vous sachiez comment il était grand, ce Jésus-Christ, comment il a été glorieux, comment on l'a vu sur la montagne, comment il était éclatant. » Non, simplement comment il a été crucifié. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Comment est-ce que Christ nous a acquis un si grand salut? Comment est-ce que Christ nous a réconciliés avec le Père? En criant plus fort que les autres? En faisant de grands discours? En défendant son point de vue bec et ongles? En faisant du lobbying? En recrutant une équipe marketing? En faisant une campagne électorale? Rien de tout ça, vous le savez bien. Non. Il nous a acquis un si grand salut. Il nous a réconciliés avec lui-même en se laissant clouer sur le bois. Il a vaincu le péché et la mort en étant méprisé, trahi, moqué, battu, crucifié. Est-ce un si grand problème de perdre? Est-ce un si grand problème de perdre? Si c'est pour nous réconcilier avec l'autre? Mais cette sagesse divine est mystérieuse et cachée. En fait, elle est tout simplement étrangère au cœur humain. Pourquoi est-ce que l'Évangile est si difficile d'être accepté? C'est parce qu'il va tellement à l'encontre de ce que nous avons l'habitude de penser, de fonctionner. Même les plus sages parmi les hommes sont incapables d'en saisir la puissance et la sagesse. Ces choses dépassent notre compréhension humaine naturelle. Mais regardez le verset 10. Et c'est ça qui est magnifique. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce qui était incompréhensible pour nous, Dieu veut l'éclairer et le faire briller dans nos cœurs. Ce que nous ne pouvions saisir, Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit. Seul l'Esprit peut apporter cette révélation parce qu'il est lui-même Dieu et lui-même a une parfaite compréhension, connaissance de la divinité. Et donc il peut en parler parfaitement. L'Évangile, il est puissant et il est efficace par lui-même. Le message est puissant et efficace simplement par lui-même. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de l'art oratoire. Très instruit et brillant, Paul aurait pu s'imposer à ses auditeurs par la force de ses arguments intellectuels. Mais les Corinthiens, ils étaient habitués à ça. Ils aimaient les grands discours et si le discours était beau, alors certainement c'était bien ça. Vous avez déjà vu cette émission télévisée, Le Grand Oral, le concours d'éloquence. C'est intéressant, hein? Les candidats, ils devaient s'exprimer sur un sujet imposé. Et par exemple, ils ont dû, ça c'est un épisode que j'ai vu, et ils ont dû répondre à cette question, doit-on tout se dire dans le couple? L'un devait défendre le oui et l'autre devait défendre le non. Peu importe leur conviction personnelle, ils devaient simplement convaincre par l'art oratoire. L'important n'était pas le fond, mais simplement la forme. On est tellement sensible au fond, à la forme, tellement attentif à la forme, que finalement le fond parfois nous laisse indifférents. L'apôtre Paul, il dit, moi, je vais y mettre le moins de forme possible, pour que votre foi, elle repose simplement sur le message lui-même, sur la puissance du message lui-même. Combien de procès ont été gagnés simplement parce que la plaidoirie de l'avocat ou du procureur était particulièrement poignante et parce qu'elle a fait vibrer la corde sensible du jury. Éric Dupond-Moretti, cet avocat qu'on voit sur toutes les chaînes, il a été appelé acquittator. Acquittator parce qu'il arrive à acquitter tout le monde. Alors vous pensez que tous les politiciens qui ont des démêlés avec la justice se l'arrachent. Il y a probablement un jeu de mots là, dans acquittator. Mais la force de l'Évangile, c'est le message lui-même. Et Paul, il se réjouit de sa faiblesse, de sorte que les Corinthiens soient saisis, non par la qualité du message, du messager, mais par celle du message. Mais il est conscient et il dit au verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il y a un conflit intérieur avec l'Évangile. On vit un conflit avec l'Évangile. Je vais essayer de vous expliquer ça. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit. Il les considère comme une folie. C'est-à-dire, c'est pas qu'il ne comprend pas le message, mais il évalue mal le message. Il le regarde comme sans valeur, comme une sottise. Il voit le sens, mais il ne voit pas la valeur du message. Ce que l'homme naturel veut dire quand il dit que l'Évangile est une folie, au fond, c'est qu'il chérit quelque chose que l'Évangile lui demande d'abandonner. Portez toute votre attention là-dessus, je répète. Ce que l'homme naturel veut dire quand il dit que l'Évangile, c'est une folie, c'est qu'il chérit quelque chose que l'Évangile lui demande d'abandonner. Par exemple, si je vous conseille de ne pas avoir de relations sexuelles avant ou en dehors du mariage. Ce n'est pas seulement moi qui le conseille, c'est la Bible qui le commande. Hein. Vous allez peut-être me dire, non mais oh, dans quel temps tu vis toi? Dans quel temps tu vis? Est-ce que tu achètes une paire de chaussures sans l'essayer? Ça c'est l'argument qu'on m'a fait valoir. Je trouve assez faible. Hein, et pour la comparaison avec une paire de chaussures, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que je vous conseille entre en conflit direct avec quelque chose que vous chérissez et que vous ne pouvez pas conserver en suivant mon conseil. Vous voulez du sexe maintenant? Donc vous considérez le conseil des Écritures comme de la folie, comme méprisable, comme sans valeur. Vous voyez, il y a un conflit. Si dans un conflit avec une personne, je vous conseille, comme Jésus le fait, et j'aimerais vous le montrer, dans Matthieu chapitre 5, verset 38. Matthieu 5, 38 dit ceci. Ça fait partie du sermon sur la montagne. Il dit, vous avez appris, c'est Jésus hein, qui parle, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un peut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc ici, le conseil que Jésus nous donne, c'est de renoncer à nos droits pour retrouver la paix. De ne pas rendre le mal pour le mal, mais d'aimer nos ennemis. Vous allez peut-être répondre, mais c'est de la folie ce que tu racontes ici. C'est de la folie, Jésus, ce que tu dis. L'homme naturel, c'est ce qu'il dit. Vous dites, mais comment est-ce que tu voudrais que j'accepte de passer pour celui qui a tort alors que je pense bien avoir raison? Comment est-ce que tu veux que je renonce à mes droits alors que je suis vraiment dans mon droit? Comment est-ce que je pourrais laisser dire ou penser une chose pareille à mon sujet? Non, il faut que justice soit faite. Il faut que la justice éclate. Petite parenthèse, les propos de Jésus ici ne concernent pas des affaires criminelles hein, que la justice des hommes doit traiter. Mais c'est les cas qui alimentent la plupart de nos conflits. Savoir les paroles que l'on a dites à mon sujet, les questions d'argent que l'on me doit, la considération que je n'ai pas eue. Ce n'est pas que vous n'avez pas compris l'Évangile. Les paroles de Jésus sont d'une simplicité extrême. Mais c'est que vous ne l'acceptez pas. Cette sagesse entre en conflit avec quelque chose que vous chérissez. Et ce que vous chérissez ici, c'est l'opinion que vous avez de vous-même. Je ne veux pas passer pour un imbécile. Je ne veux pas passer pour un fou. Je ne veux pas passer pour un faible. Je ne veux pas renoncer à mes droits. L'Évangile m'invite à suivre Jésus et à lui obéir. Mais ça entre en conflit directement avec mon autonomie et mon désir d'être au contrôle et de tirer les ficelles. L'Évangile m'invite à me confier dans ce que Jésus a accompli pour moi, dans la croix et non pas dans mes œuvres. Mais ça rentre en conflit avec l'estime que j'ai de moi. que je retire, l'estime que je retire en faisant des bonnes œuvres, en utilisant mon intelligence, mes compétences, mes talents, ma force. Laisser tout cela pour me confier en Christ, c'est comme une folie. Vous voyez le conflit. Ce n'est pas qu'on ne comprend pas l'Évangile, mais c'est que l'Évangile nous demande de lâcher la haute estime que nous avons de nous-mêmes. Au fond, nous n'acceptons pas l'Évangile parce que Christ entre en conflit avec notre auto-glorification, avec notre orgueil. Nous préférons dire « c'est de la folie ». C'est de la folie ce que tu me demandes. Et le conflit demeure. Alors, j'aimerais qu'on essaie de revenir encore sur le chemin de la croix. Quel espoir y a-t-il ? Regardez encore comment l'Évangile fonctionne. Jésus, le Dieu seul sage, a accepté d'être regardé comme un fou. On a dit de lui, il est hors de sens. Il a un démon. Vous imaginez la force de ces paroles ? Lui, le Dieu trois fois saint, on dit, il a un démon. Lui, le juste, il a accepté d'être regardé comme le plus vil des pécheurs, digne de la crucifixion. Lui, l'ami fidèle, a accepté d'être trahi et abandonné par tous ses amis. Lui, le fils bien-aimé du Père, s'est fait pécher de sorte que son Père saint s'est détourné de lui. Lui, le roi des rois, a accepté d'être celui qui sert. Lui, le tout-puissant Créateur, a accepté d'être moqué et humilié. Voyez-vous comment la voix de Dieu, pour notre salut, entrait directement en conflit avec les intérêts de Jésus ? La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ou à conserver jalousement. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est fait simple homme, serviteur jusqu'à la mort de la croix. Mais il s'est confié en Dieu dans la prière, acceptant de n'être justifié que par Dieu seul. Il a obéi et il a accepté cette voie de l'Évangile. Et par sa mort, il a payé pour nos péchés. Il a réglé le conflit ancestral. Il s'est acquis un peuple de rachetés qui le glorifiera éternellement. À cause de la croix, il a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il a vaincu tous ses ennemis, et même le dernier, la mort. Et qu'est-ce qui nous a touchés ici ? Qu'est-ce qui nous a touchés dans ce message ? Ce qui nous a touchés, c'est que on était ennemis de lui, et puis il a tout payé pour nous, avant même qu'on se tourne vers lui. Et c'est quand on a réalisé cela, on s'est dit, mais alors Dieu m'aime tellement ! Dieu m'aime tellement qu'il a été capable d'accepter d'être regardé par le monde entier comme méprisable, comme pécheur, comme injuste, pour que notre relation à nous puisse être restaurée. C'est magnifique. Et c'est ça précisément qui nous a bouleversés, qui nous a touchés. Lorsque le Saint-Esprit nous éclaire, oh, il fait son travail dans nos cœurs. Il ne nous épargne pas le travail d'étude de la parole. Il ne nous épargne pas le travail de lecture, l'effort de compréhension. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il éclaire nos cœurs sur ces vérités pour les appliquer à notre âme, à nos cœurs. ce que nous prions, c'est qu'il nous rende assez humbles pour accueillir la vérité, pour faire fléchir notre personne devant la majesté de Christ. Voyez-vous la puissance du message ? Voyez-vous la sublime puissance de l'Évangile ? Comment elle peut régler nos conflits ? Que se passerait-il si, dans l'Église, nous essayons de prouver notre point de vue de cette manière ? Si celui qui a toujours raison, qui est le plus fort, le plus sage, que pour une fois il accepte d'être faible, pauvre, sot, comme Jésus, alors la rivalité cesserait immédiatement. La place serait prise par l'unité. Que se passerait-il si, dans nos couples, dans nos familles, nous essayons de prouver notre point de vue de cette manière ? Si, comme Christ, nous abandonnions nos droits, nous acceptions un peu d'injustice, ou que notre point de vue ne triomphe pas, alors nos querelles cesseraient immédiatement, et l'unité et l'amour triompheraient. Je repensais à ce cantique « La voix du Seigneur m'appelle ». La troisième strophe dit ceci « Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. » Être un disciple de Jésus-Christ, c'est suivre ses pas. C'est accepter de n'être justifié que par Dieu. Dans le prochain conflit que vous allez connaître, si vous acceptiez d'être mal jugé, que se passerait-il ? Si vous acceptiez d'être mal jugé dans le prochain conflit, le conflit cesserait immédiatement. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit. Mais il risque de se passer autre chose encore par la suite. Si la personne se rend compte que vous n'aviez pas si tort que cela, mais que vous avez accepté d'être regardé comme celui qui avait tort, alors elle va réaliser à quel point vous l'avez aimé. Elle va réaliser que vous voulez tellement vivre en communion avec elle que vous préférez avoir tort à ses yeux plutôt que de perdre sa communion. Ça, c'est l'Évangile. Et ça met un terme à nos conflits, à nos disputes, à nos querelles. Ça relève définitivement nos maisons, nos foyers, nos cœurs, nos églises. C'est tellement contre nature. Ça va tellement à l'encontre de notre façon naturelle de penser et d'agir. Il n'y a aucun système au monde qui dit que la meilleure manière de gagner, c'est de perdre. Que la meilleure manière de grandir, c'est de s'abaisser. Le sport, la politique, la finance nous disent tout le contraire. Mais le christianisme fonctionne comme ça. Ça, c'est notre spécialité. C'est notre gloire de fonctionner comme ça. Ce qui apparaît une folie est en réalité une sagesse. La sagesse de Dieu. Il dit au verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. » Il dit, « Une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » C'est qui les parfaits ? Les parfaits, ce sont des chrétiens mûrs, au fond, qui sont parvenus à une certaine maturité spirituelle, qui acceptent d'être justifiés par Dieu seul. Aussi, ils ne craignent pas d'être mal jugés. Ils connaissent la sagesse de la croix. Si nous ne voyons pas de sagesse ici, et c'était le cas pour les Corinthiens, c'est probablement que nous sommes encore des enfants en Christ au chapitre 3, verset 1, il dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Comme des enfants en Christ. Quand on fait monter des conflits en voulant établir qu'on a raison, on agit comme des enfants qui débutent à peine dans la connaissance de Jésus-Christ. Paul veut que les Corinthiens, veut que chacun d'entre nous, le Seigneur le veut, on puisse grandir et mettre un terme à ces conflits. Dans le psaume 119, l'auteur demande à Dieu, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est-à-dire, ici, il dit qu'il n'a pas besoin de Dieu pour être capable de lire sa parole. Il a besoin de l'aide de Dieu pour la comprendre. Il a besoin de l'aide de Dieu et de l'Esprit de Dieu pour toucher nos cœurs, pour appliquer ces choses à nos cœurs, pour les pratiquer. Dieu doit ouvrir les yeux de notre entendement avant que nous puissions contempler cette sagesse qui règle nos conflits. Sans cette illumination de l'esprit, nos cœurs ne voient pas la splendeur de l'Évangile. Nous regardons ces vérités comme rien, comme une folie. Et si c'est votre cas ce matin, si ce que je vous ai dit, ça semble être de la folie, priez que Dieu vous ouvre les yeux. Vous pouvez lui demander de vous sauver et de lui vous révéler sa sagesse infinie. Vous pouvez prier, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta croix, pour que je sache comment appliquer ton évangile à mon cœur et désamorcer les conflits, pour que je connaisse la sagesse qu'il y a à être justifié par Dieu seul. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour ta parole. Je te loue pour cet évangile. La sagesse de Dieu et la puissance de Dieu pour celui qui croit, pour celui qui se confie simplement. Seigneur, on a tellement de mal à saisir ces vérités. On les comprend avec notre intelligence, mais on a tellement de mal à les pratiquer dans nos vies, dans nos cœurs. Aussi, on te demande pour que ton Esprit Saint travaille dans nos vies et manifeste sa puissance en nous permettant d'appliquer ces vérités à notre vie quotidienne. Ô Seigneur, on te prie pour que cet évangile y soit vécu dans nos familles, dans nos couples, que cet évangile y soit vécu dans notre Église, pour que le monde croie, pour que le monde voie la puissance de cet évangile, la gloire qui lui est attachée et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen.